Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Ogossagou, même heure partout au Mali. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale. Voici les titres. 17 gouverneurs ont été nommés hier en conseil des ministres. Parmi eux, 11 sont des militaires. Des nominations qui interviennent au moment où des administrateurs civils sont en grève illimitée. L'insécurité continue d'inquiéter les populations de plusieurs localités du centre du pays. Les localités de Farabougou et Gomakoura sont toujours assiégées par de présumés djihadistes. À Ogossagou et Sobanda, des pourparlers sont en cours pour rétablir la stabilité. 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes. La campagne a démarré hier. Selon des défenseuses des droits des femmes, il faut que les violences faites aux femmes soient traitées à tous les niveaux. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté. Nous Djiré assure la technique. 17 gouverneurs, dont 11 militaires, ont été nommés hier. C'est lors du Conseil des ministres à Bamako. Ces nominations interviennent dans un contexte où l'occupation de postes stratégiques par des militaires suscite des débats au sein de l'opinion nationale. Rappelons que ces nominations interviennent également au moment où la grève illimitée des administrateurs civils, notamment préfets et sous-préfets, est en cours. La situation sécuritaire reste tendue dans plusieurs localités du centre et du nord du pays, frappé ou menacé par une série d'attaques. Si à Sobanda et Ogossagou, des rencontres se succèdent pour établir la paix et la sécurité, les pourparlers de Goma, les populations de Gomakoura sont toujours assiégées par des présumés terroristes. Lundi Moussa Diallo nous en dit plus.
La situation reste tendue à Farabougou, localité située dans le cercle de Nyono. Pas de sortie ni d'entrée possible dans le village où des terroristes ont imposé un blocus, rapportent des habitants. Ces mêmes sources indiquent que des dizaines de champs des villageois ont été incendiés le week-end dernier par des hommes armés non identifiés. Il faut rappeler que 6 personnes ont été précédemment tuées dans ce village, 22 autres blessés et 9 portés disparus. À Ségou, des témoignages déclarent également que le village de Gomakoura a été aussi encerclé par d'autres groupes armés. Des habitants joints sur place affirment que là aussi un blocus a été installé sur les populations. Ces habitants ont aussi dénoncé l'inaction des femmes présentes dans la localité. Ces événements interviennent au moment où des rencontres intercommunautaires sont organisées pour rétablir la paix et la sécurité à Nyono, Sobanda et Ogossagou. Le procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée annonce aussi l'ouverture des enquêtes sur les tueries survenues dans ces localités.
Pour certains juristes, l'ouverture des enquêtes annoncées par le procureur du pôle judiciaire spécialisé sur les tueries de Sobanda et Ogossagou doit avoir une dimension internationale pour que certaines communautés ne se sentent pas ciblées. Toutefois, le juriste souligne aussi la nécessité du respect des délais de détention des présumés terroristes. Maître Amadou Tchioulin Diara, enseignant à l'université de Bamako, est joint par Lende Moussa Diallo.
On a souvent peur que, en fait, les procédures ne soient tournées, eh bien, contre telle ou telle communauté, qu'on appréhende, en fait, pour leur faire porter le chapeau de toutes les tracasseries. Concernant ces communautés, comment les identifier et puis comment faire la séparation entre les groupes terroristes, comment faire la part des choses? Les terroristes sont souvent le prolongement de groupes qui sont à l'extérieur. Alors maintenant, si l'enquête est simplement ou purement nationale, bien, nous pouvons avoir des inquiétudes quand, en fait, au résultat, il n'est pas interdit la lutte antiterroriste aussi vont de pair avec le respect des droits humains et le respect de l'état de droit. Il faudrait que l'état aussi se soumette à ces règles de droit-là.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. C'est parti depuis hier pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au Mali, 49% des femmes en union ou en rupture d'union, dont l'âge est compris entre 15 et 49 ans, subissent des actes de violence. Ces chiffres sont d'une enquête démographique et de santé Mali de 2018. Selon des organisations de défense des droits des femmes, il faut que ce problème soit traité par toutes les couches de la société pour montrer l'ampleur et les conséquences des violences faites aux femmes. Maïmouna Diankouda Dambélé, directrice pays du Centre d'études de coopération internationale, joint par Emirana Kilumaiga.
il y a la crise qui fait que nous avons de nouvelles formes de violence tout le temps, mais que nous avons de plus en plus de femmes dans certaines communautés qui sont victimes de violences faites aux femmes à cause de la toxicomanie, notamment l'utilisation des stupéfiants. Mais il y a aussi la question de la pandémie à Covid-19 qui a quand même créé beaucoup de situations. Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi ou leur source de revenus et qui a fait monter la pression, qui a créé plus de tensions au niveau des foyers. Les mesures en vigueur sont insuffisantes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de plus en plus de cas. Il faut que ce problème soit vu comme un problème social, comme une question de santé publique, comme une question juridique, comme une question de droits humains.
Quelles sont les réformes également nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? Si pour les parties signataires, la période de la transition doit être une opportunité pour appliquer l'essentiel de cet accord, des experts estiment qu'une refonte totale de cet accord est désormais nécessaire. Docteur Ali Tunkara, sociologue écrivain, spécialiste des questions sécuritaires, joint par Lindi Moussa Diallo.
Il est quand même la responsabilité de l'État central et de ses partenaires également de faire en sorte que ce document puisse avoir un ancrage local. Le fond du problème, sommes-nous partis à partir d'une revendication ultra-minoritaire et en faire une revendication justement généralisante, engageant toutes les régions du Nord. Donc je vois que lorsque cela n'est pas clarifié, on va continuer à tourner au rond. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que les nouvelles autorités de la transition aient le courage, naturellement, de ne pas parler de la révision de l'accord, mais plutôt de la réforme. C'est quand même, on révise s'il y a des éléments qui tiennent, mais pour beaucoup de lecteurs, pour beaucoup d'observateurs, il y a tellement d'éléments qui ne tiennent pas la route.
Autre sujet, les travaux du cadre d'échange sur la réforme constitutionnelle et le code électoral se poursuivent à Bamako. Cette rencontre organisée par le Haut Conseil des collectivités permettra, selon des universitaires, de toiletter le code électoral pour éviter les crises post-électorales et favoriser le retour de la stabilité. Docteur Foussène Doumbia, participant et enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de Bamako, est au micro de Khalifa Goïta.
L'élection pourrait être la meilleure ou la pire des choses. Donc, pour la transparence du processus électoral, il faut des réformes parce que le droit électoral malien atteint beaucoup de limites. Les élections qui ont été organisées dans les temps ont toujours débouché sur des crises post-électorales. Il faut chercher à maîtriser la prolifération anarchique des partis politiques. Cela constitue un problème. Qu'on puisse réfléchir sur des mécanismes qui puissent nous permettre d'instituer pour notre pays un organe unique qui va s'occuper de tout le processus électoral. Pour la stabilité, il faut aussi mettre un terme à la double proclamation des résultats. Si l'organe unique est institué, qu'on lui donne la possibilité entière de proclamer à lui seul les résultats.
Parlons à présent de la grogne sociale. Les réclamations et grèves des travailleurs se succèdent. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, envisage d'aller de nouveau en grève de 5 jours après celle de la semaine dernière. Les enseignants du supérieur et les gardiens de prison envisagent de suivre les administrateurs civils en grève illimitée. Quelle solution pour sortir de cette grogne sociale? Des éléments de réponse dans ce reportage de Ali Cissé.
Pour Mme Maï Niari, membre de la société civile, les centrales syndicales et tous les manifestants doivent se ressaisir et arrêter toute forme de manifestation pour éviter au pays de s'écrouler et lui faciliter de sortir de la crise.
Nous sommes dans une situation très difficile au niveau du Mali aujourd'hui. Et aller de grève en grève, ça va nous amener où? Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est que si nous rentrons dans notre spirale de grève à ne plus en finir, nous allons perdre notre pays.
Pour l'économiste Étienne Fakaba Sissoko, le droit à la grève est un droit reconnu et garanti en République du Mali. Il estime que les autorités doivent vite trouver une solution à la crise. Docteur Étienne Fakaba Sissoko.
Que les autorités arrêtent avec cette prétention de dire que le Mali va disparaître ou que le Mali va s'écrouler. Non, le Mali va demeurer. Ce sont les autorités qui partiront parce qu'ils ont été incapables de faire face aux enjeux de l'heure.
Pour sa part, le juriste Mamadou Guissé préconise un dialogue social ouvert avec tous les acteurs. Mamadou Guissé, enseignant à l'université de Bamako.
Et dans ce dialogue social, c'est le caractère humble et raisonnable de tous les acteurs qui doit prévaloir et permettre enfin une reconsidération même de la personne du travailleur au Mali.
Rappelons que toutes ces grèves ont lieu en période de transition politique marquée notamment par une crise sécuritaire et sanitaire à travers les pays.
Parlons à présent de la santé et situation de la COVID-19 au Mali. À la date du mercredi 25 novembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 44 nouveaux cas positifs, 6 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 4461 cas confirmés, dont 3060 guéris et 148 décès. Place maintenant notre rubrique Actu COVID présentée par Momine Sendebou.
La gestion du fonds spécial COVID-19 au Mali suscite toujours des débats. Dans le cadre de la distribution gratuite de masques initiée par le régime précédent, un Malien, un masque, certaines organisations n'auraient pas encore payé leurs fournisseurs. Parmi elles, l'association Route du Sud. Des tailleurs qui ont confectionné des masques pour la structure disent n'avoir pas encore reçu leur dû. Du côté des responsables de l'association, ils évoquent plutôt un problème de trésorerie et promettent de s'acquitter de leurs dettes dès que possible. Pour en savoir davantage, suivons ce reportage de Moussa Mali Sissoko dans ce numéro d'ActiCovid.
Salif Diarra, tailleur au marché de Médine, témoigne que son atelier a mis plus de 10 000 masques à la disposition de l'association Route du Sud. Ce couturier estime toutefois que depuis des mois, ses collègues et lui n'ont pas reçu leur argent. Salif Diarra, tailleur.
Chaque fois qu'on partait leur demander nos frais de prestation, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. On a cousu plus de 10 000 masques pour l'association. Elle n'a pas payé pour plus de 8 000. Au début, elle nous payait, mais depuis août, l'organisation ne s'acquitte plus de sa dette. L'association Route Sud nous doit plus d'1 500 000 francs CFA.
De son côté, l'association Route du Sud reconnaît les faits. Cependant, elle soutient qu'elle n'a rien obtenu de l'État depuis le début du processus. Ils sont plus d'une centaine à travailler avec nous. Nous étions obligés de nous endetter pour pouvoir faire une avance à nos fournisseurs. L'État avait promis de nous financer, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de l'argent. Nous confie une responsable de l'organisation qui a requis l'anonymat. Rappelons aussi que cette situation survient au moment où de nombreux Maliens s'interrogent sur la gestion du fonds spécial COVID. Le ministère de la Santé et la Primature n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet en dépit de nos sollicitations.
Présent la question d'auditeur du jour, puis la réaction du professeur Daouda Kassoumenta. Il est membre du comité scientifique COVID du Mali.
Malgré l'augmentation du nombre d'infections au coronavirus, des localités au Mali n'ont pas encore enregistré des cas. Est-ce à dire qu'elles sont immunisées?
Là, il faut faire des prélèvements, voir des localités qui n'ont pas été contaminées. Quel a été le facteur protecteur? Est-ce qu'ils ont fait la maladie de façon asymptomatique? Ils ont développé des anticorps? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà des sujets de recherche qui sont aujourd'hui à notre portée. C'est là qu'il faut aller aujourd'hui pour une meilleure compréhension de la maladie.
C'est tout pour ce numéro d'ActiCovid. À la prochaine. N'oubliez pas, pour vous protéger de la maladie, respectez les restrictions sanitaires et suivez les conseils des médecins.
Un mot de sport football. Le footballeur argentin Diego Maradona est décédé hier des suites d'une crise cardiaque à Buenos Aires. Il avait 60 ans. Durant sa carrière, il a porté l'Argentine au sommet du foot mondial.
Sidio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
8 heures passées de 13 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sidiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Mohamedou Touré. Mais avant tout de suite, le magazine. Sidio Tamani.